question d'aujourd'hui. Avec Mario Barr.
Bienvenue à Question d'aujourd'hui, très heureux de vous accueillir pour cette émission qui vous est présentée en collaboration avec Radio-VM et Radio-Galilée par l'Office de catéchèse du Québec. Aujourd'hui, je vous propose la lecture ou en tout cas la réflexion autour d'un livre qui est sorti l'automne dernier, Entre tradition et décision, devenir chrétien aujourd'hui chez Médiapol, écrit par Sophie Tremblay, docteur en théologie, professeur à l'Institut pastoral des Dominicains depuis plus de 20 ans. Elle se spécialise dans le dialogue pastoral, la catéchèse, la liturgie et les sacrements. Et c'est une femme qui réfléchit beaucoup à notre lien entre la culture d'aujourd'hui, ce que le Québec devient, ce que les Québécois de souche en particulier deviennent, je dirais, et la religion catholique, bien sûr. Tout d'abord, Sophie Tremblay, bonjour.
Bonjour, Mario.
Merci beaucoup d'accepter l'invitation.
C'est un plaisir.
Et ça fait longtemps qu'on se dit, en tout cas que moi je me dis, Sophie, je veux que Sophie vienne à l'émission. Tout d'abord, Sophie Tremblay, pourquoi un tel livre, Entre tradition et décision, devenir chrétien aujourd'hui?
J'ai réalisé en finissant de l'écrire que pour moi, ce livre-là vient boucler la boucle de 30 ans de réflexion. Donc, on se reporte à la toute fin des années 80. J'entendais mes amis étudiants en théologie qui discutaient de la pastorale du baptême des petits-enfants et qui s'inquiétaient des motivations des parents qui leur paraissaient beaucoup plus sociales que religieuses. Peu après, justement pendant le temps des fêtes, une de mes cousines racontait comment une de ses amies s'était tellement sentie mal reçue en paroisse quand elle venait demander le baptême de son bébé. Et toute ma famille et moi aussi trouvaient l'histoire désolante. Donc, ces deux récits-là présentaient des points de vue vraiment contrastant, même complètement dissonant. Puis je me sentais empathique aux deux côtés de la situation et complètement déchirée entre les deux. Alors, pour moi, ça a été comme le moment initial d'une réflexion que je mène depuis cette époque-là. Je n'ai jamais cessé de m'interroger sur l'initiation chrétienne dans le cadre de mes études, dans le cadre de mon travail comme théologienne aussi, dans mes publications. Habituellement, dans mes publications, jusqu'à maintenant, je me suis toujours adressée aux gens du métier, aux gens qui travaillent en pastoral.
D'accord.
Je suis en quelque sorte une agente de pastoral qui est devenue théologienne, on pourrait dire. Mais spontanément, je m'identifie à ce point de vue-là, je pourrais dire. Mais en même temps, je suis une laïque, moi. Donc, j'appartiens à une famille comme toutes les autres familles. Puis, je vis la vie quotidienne comme tout le monde dans notre société. Alors, j'ai eu l'occasion de discuter aussi de ces questions-là avec des gens qui n'ont absolument rien à voir avec le monde pastoral. Puis, toujours avec cette espèce de tiraillement entre les deux. Il m'a fallu 30 ans de mûrissement pour me sentir capable de m'adresser en même temps aux gens qui sont en pastoral et aux gens qui n'ont absolument rien à voir avec ce milieu-là.
C'est tout un défi, ça.
C'est tout un défi. Alors, pour réussir à écrire, je m'imaginais, bon, des personnes que je connais qui représentent ces univers-là. Je me les représentais devant moi dans une pièce et j'étais en train de parler pendant que je leur parlais pendant que j'écrivais. C'est comme ça que j'y suis parvenue. Et c'est un livre qui est donc différent dans sa facture, dans son style, parce que c'est pas un livre d'universitaire avec des notes de bas de page, puis...
Non, pas
une dissertation savante.
On est vraiment avec des personnages, tout d'abord. Ça, c'est un aspect qui est vraiment appréciable, apprécié également, parce qu'on rentre dans l'univers de Camille. Attendez un petit peu.
Le personnage principal s'appelle Camille,
voilà,
tout à fait.
Voilà, exactement. Et également son conjoint.
Son conjoint qui s'appelle Antoine.
Voilà. Exactement.
Ils ont un bébé qui s'appelle Thomas.
Oui, et donc les deux ont deux points de vue différents parce qu'ils viennent de deux milieux différents.
Absolument.
Comme c'est le cas dans plusieurs familles, d'ailleurs.
Et le point de départ de leur histoire, c'est la question, feront-ils baptiser ou non leur bébé?
Exactement.
C'est ce qui déclenche tout. Donc, c'est la question qui déclenche la réflexion dans le livre. C'est la même qui m'a provoqué à la réflexion depuis 30 ans. Donc, oui, des personnages. Puis, je trouvais ça plus vivant, puis plus concret qu'y aller avec quelque chose dans le style d'une enquête sociologique, avec des chiffres.
C'est que ça nous rejoint plus.
Voilà.
Les questionnements roman que vous avez décidé de mettre en action, c'est une fiction, mais une fiction qui est tout à fait réaliste, nous donne les vraies questions que les gens se posent et que les catholiques québécois, ou en tout cas les Québécois en particulier, se posent parce que le baptême est souvent le nœud sur lequel un couple ne s'entendra pas. Il y en a qui vont dire non, on le fait baptiser parce que c'est culturel, parce qu'on est Québécois, parce qu'on est catholique, culturel quand même. Et il y en a d'autres qui vont dire ben non, c'est d'adhérer à quelque chose, alors on ne peut pas faire ça pour l'enfant. Bref, il y a beaucoup de questionnements et de déchirements également.
Absolument. Pour moi, la question du baptême des bébés, c'est le meilleur révélateur des tensions entre la tradition, ce dont on hérite,
oui,
et la décision personnelle qui fait qu'on se met aux commandes de ses propres choix en matière religieuse, en matière de croyance ou de pratique. À l'époque de mes parents, de mes grands-parents, des vôtres aussi, donc tous les bébés étaient baptisés en bas âge au Québec. Puis c'était comme ça dans l'ensemble du Canada français. Ça allait de soi. C'était un rite social, une coutume, un trait culturel qu'on se transmettait de génération en génération et qu'on ne questionnait pas. Donc, quand je suis née, c'était encore le cas et les registres paroissiaux tenaient lieu de l'actuel registre de l'État civil qui n'a été créé qu'en 1994.
Ah, ça, faut le rappeler. Ah,
ouais, oui, c'est oui, très oui, récent.
C'est vrai, ça.
Alors, à l'époque, moi, où j'ai commencé à réfléchir sur le baptême des enfants, c'était encore les registres paroissiaux. Les
qui gens servaient ouais, à la province pour, voilà, ni plus ni moins qu'enregistrer les naissances.
C'est ça, exactement.
Et les donc, noms et tout.
Donc, il y avait des doubles des registres paroissiaux qui figuraient dans les palais de justice. Et c'est ces copies-là qui ont été rapatriées au registre de l'État civil, là, qui ont été ramassées partout dans le Québec. Donc, le fait que ces registres-là jouait un rôle à la fois civil et religieux, indissociablement. Ça témoigne de cette espèce de fusion entre religion et culture qui définissait l'identité, on pourrait dire.
Et c'est intéressant parce que vous faites partie d'une génération. En fait, on a découvert il y a quelques instants qu'on est de la même génération.
Tout à fait. Génération X.
2 ans de différence, c'est tout.
Oui.
Et c'est intéressant parce que nous avons grandi encore dans une église qui était encore assez présente dans la vie sociale québécoise dans les années 70 en particulier.
Mais moi, je viens du Saguenay en plus.
En plus.
Donc, je peux vous dire que c'est différent. Même maintenant, ça se voit peut-être encore plus, là. Mais oui, alors, même aujourd'hui, les taux de baptême au Saguenay sont encore passablement plus élevés qu'ailleurs. En fait, je me souviens quand j'ai commencé à travailler sur la question dans les années 90, des parents me disaient, ouais, on me dit que j'ai le choix, mais si mon enfant est pas baptisé, qu'est-ce que je vais faire, tu sais, pour l'inscrire à l'état civil? S'il va en morale et pas en catéchèse, ça va l'isoler, le singulariser. On était pris avec ces questions-là, moi, quand j'ai commencé à réfléchir.
Il y a également toute la question de la famille qui dit, voilà, ah ben là, attention, mon enfant qui n'est pas confirmé, qui n'a pas reçu les sacrements, qu'est-ce qui va arriver à l'occasion du mariage?
Ouais.
Si on va faire un mariage religieux.
Tout à fait, tout à fait. Puis la question de la confirmation pour pouvoir être un jour parrain ou marraine.
Voilà, exactement.
Alors, il y a une forme de pression familiale que beaucoup de couples ont subie de la part de leurs parents ou de leurs grands-parents pour que leur bébé soit baptisé, peu importe leur conviction, justement à cause que c'était un rite qui avait une fonction identitaire, hein, une fonction sociale. Mais depuis les années 2000, on voit le catholicisme culturel qui se dissout tranquillement. Bon, si je reprends les chiffres là, que j'ai pris chez le sociologue Martin Meunier, que vous connaissez peut-être, de l'Université d'Ottawa. Donc, il faut attendre vraiment les années 2000 pour voir la chute importante des taux de baptême.
D'accord.
En 2000, c'était encore 75 %. En 2009, 55 %. Puis depuis 2012, là, on est en dessous de la barre des 50 % des enfants nés au Québec qui sont baptisés
à l'Église catholique.
Baptisés à l'Église catholique, c'est ça.
Oui, voilà.
En bas âge. Par contre, ce qu'on voit apparaître, c'est des gens qui ont des histoires tout autres que ce bagage culturel que vous et moi avons connu. Donc, parmi des gens qui sont, parfois de notre génération, puis parfois plus jeunes que nous, la plupart du temps plus jeunes que nous. Donc, des gens qui sont nés dans des familles non religieuses ou qui ont eu des petits morceaux d'initiation chrétienne. Donc, qui ont été baptisés, mais rien d'autre après. Ou qui ont eu la première communion, pas la confirmation. Qui ont eu des, c'est ça, donc des morceaux dont les parents ou la famille avaient des attitudes religieuses assez variées. Puis qui s'intéressent maintenant de leur propre chef à la dimension spirituelle ou religieuse et pas parce que leur famille les a poussés, bien au contraire. Il y a aussi des gens qui viennent de familles vraiment très engagées dans un point de vue non religieux, athée, militant.
Oui, oui, c'est presque une religion.
Oui, il y a des gens qui le vivent de cette tout à fait.
C'est vraiment très intéressant ça. Sophie Tremblay, on fait une petite pause et on revient tout de suite après.
Excellent.
Toujours la question d'aujourd'hui, je me trouve en compagnie de Sophie Tremblay, qui est docteure en théologie, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains depuis plus de 20 ans, et elle se spécialise dans le dialogue pastoral, la catéchèse, la liturgie, les sacrements, dans une dynamique, j'oserais dire, qui est très organique. Hein, au contraire vous avez une expérience sur le terrain qui est vraiment précieuse parce que vous continuez à vous impliquer en paroisse, ce qui n'est pas toujours le cas quand on est théologien. Parfois, il y a des découragements pour certains qui se disent ben c'est pas du tout l'église dans laquelle je veux évoluer, donc ils se séparent. Et c'est un choix, on n'a pas à juger ça, mais bref, ça arrive régulièrement. Alors que vous avez décidé de continuer vous,
oui.
Et vous avez une expérience de maman également. C'est important de le dire. On rencontre Sophie Tremblay rapidement, juste avant de passer à votre expérience de maman, Sophie. On la rencontre à l'occasion de la sortie d'un de ses premiers livres?
C'est mon quatrième.
Votre quatrième. Oups là, OK. Donc, j'ai pas vu passer les autres. Je suis vraiment désolée, Sophie.
Mais c'était des livres de spécialistes, mes premiers.
Ah, d'accord.
Centrés sur le dialogue pastoral.
D'accord.
Donc, adressés au personnel pastoral. Alors que là, je m'adresse à tout le monde.
Exactement, et ça, je suis contente de vraiment...
Dans un discours aussi où j'ai essayé d'éviter le jargon.
Ben, je pense que vous réussissez parce qu'on a deux personnages, en tout cas, qui se questionnent et qui posent les bonnes questions. Des questions qui sont fondamentales, c'est ce que je veux dire. Ce sont des questions fondamentales que les gens devraient tous se poser. Et en tout cas, c'est un très bon livre de réflexion, je pense, entre tradition et décision, devenir chrétien aujourd'hui chez Mediapol, publié cet automne. Donc, c'est encore en librairie, certainement. Sophie Tremblay, donc, je reviens à votre expérience de maman. Vous m'avez mentionné là, pendant la pause musicale que vous voulez vraiment qu'on en parle de ça, parce que ça fait partie également du tout de ce livre-là, j'imagine.
Absolument. Quand j'avais un point de vue d'agente de pastorale, de théologienne, et que je n'avais pas d'enfant, ces questions-là... Je pouvais les aborder d'une manière plus...
Détachée.
pour moi, tout était du côté de la décision. J'étais férocement anti-tradition parce que je trouvais que perpétuer le catholicisme culturel,
ça n'avait aucun sens.
Oui. Exactement. C'est des choses dont je parle dans mon livre. Je continue de le penser. Surtout que maintenant, on peut plus s'imaginer que ça se transmet tout seul, qu'on n'a qu'à suivre le mouvement puis que ça va continuer de se poursuivre aux générations suivantes. S'il n'y a pas une forme de choix... De manière d'adhérer personnellement, même avec des guillemets, avec des réserves, il n'y a rien qui peut se transmettre. Puis de toute façon, les enfants, les plus jeunes, ils nous voient vivre, ils voient ce qu'on croit ou ce qu'on ne croit pas. Même quand on ne leur en parle pas, ça se transmet, donc on ne peut pas tricher avec ça.
Et maman Sophie Tremblay, parce que là, vous êtes théologienne, agente de pastorale, vous l'avez été... Vous êtes professeur à l'Institut pastoral, donc vous baignez dans l'univers ecclésial, mais aussi de la réflexion sur Dieu, de la réflexion sur les sacrements, de la réflexion sur le dialogue avec notre culture générale, la culture, la civilisation d'aujourd'hui.
Oui.
Mais maman, Sophie Tremblay, et ses enfants, comment ça se passe?
Ben, j'ai deux garçons, deux adolescents.
Oui.
Je pourrais dire que pour mon aîné, lui s'est rendu au bout de toutes les étapes de l'initiation chrétienne, telles qu'elles se vivent dans notre diocèse. C'était pas aucune difficulté à le motiver ou à l'intéresser
à ça. Il aimait ça.
Oui, parce qu'on dirait qu'il y avait une espèce de fibre spirituelle ou une ouverture aux questions existentielles depuis toujours.
Okay.
De son côté, ça s'est passé comme ça. Pour mon plus jeune, la liturgie, c'est pas sa tasse de thé. C'est vraiment pas sa tasse de thé. Donc, rendu à cette étape-là dans le parcours, il y avait toute une année de catéchèse où on était supposé parler de ça. Puis, c'est là que ça a bloqué. Et puis, il y avait en plus dans sa tête l'idée que se rendre jusqu'à la confirmation, mais c'était comme réussir à terminer son primaire à l'école. Mais voyez-vous, c'est certainement pas dans sa famille qu'il a trouvé des idées semblables. J'ai aucune idée où est-ce qu'il a pu prendre ça. Peut-être chez d'autres amis ou d'autres enfants des groupes de catéchèse. Mais ceci dit, mon fils demeure croyant. Mon fils participe à des activités d'ado à la paroisse. Mais on a laissé aller à la
dimanche.
Ben justement, pas juste la messe du dimanche, mais la catéchèse tout simplement. On a arrêté là. Donc, il n'a pas été confirmé. Justement parce que je voulais qu'on respecte sa liberté de conscience. C'est pas la même chose avec un enfant qui a 10, 12 ans. Qu'avec un jeune qui a 6 ans, où là, on peut dire que c'est beaucoup plus difficile pour lui d'avoir une parole en son nom propre. Mais rendu comme ça à la fin de l'enfance, forcer un enfant, il y a des conséquences que je considère vraiment funestes.
Ben, en fait, qui vont rester tout le reste de ses jours.
Exactement. Donc, le respect de sa liberté de conscience, pour moi, c'est vraiment sacré. C'est quelque chose dont je parle dans le livre aussi beaucoup. La liberté de conscience, justement autour de la décision personnelle. Et je pense qu'on a un apprentissage à faire en Église, en société, en famille. C'est quelque chose qui fait partie de nos chartes. Ça fait partie des droits humains, hein, liberté de conscience, liberté de religion.
C'est intéressant, Sophie Tremblay, que vous abordiez cette question-là, parce qu'on a vu il y a juste avant Noël, notre premier ministre, François Legault, qui était en tournée aux États-Unis, surtout en Californie, auprès des grandes compagnies, par exemple les grandes compagnies de cinéma ou encore les grands producteurs, pardon, ou bien encore les GAFA, le fameux GAFA qu'on appelle, là, Google, Facebook, et puis, pardonnez-moi, je suis vraiment
Amazon,
pas...
Amazon, Apple, oui.
Merci beaucoup.
Je connais.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il a affirmé au gouverneur de la Californie, donc l'équivalent du premier ministre ici, d'une province, que finalement, les Québécois étaient presque à 100% catholiques.
Mais oui, tout à fait.
Ça a été assez impressionnant quand même, la part d'un homme, bon, et ça c'est un commentaire peut-être un peu plus personnel, mais d'un homme qui a mis de l'avant la loi 21, qui est toujours en débat d'ailleurs, hein, c'est pas terminé. Les plus jeunes générations ont souvent des réactions très différentes face à cette loi-là que les plus vieux, mais ça c'est une autre histoire. Mais ça vous a surpris ça que M. Legault s'en aille dans cette avenue, dise quelque chose comme ça, parce que plusieurs Québécois et peut-être même plusieurs catholiques ont trouvé ça un peu grossier, dans le fond.
Ben oui, moi aussi, j'ai trouvé ça. En fait, c'est pas un bon reflet de la réalité. Dans la mesure où ils se réclament d'un catholicisme culturel qui n'est plus présent de manière unanime. Puis parfois, il y en a qui disent, bon, ça, c'est le problème de Montréal, mais je suis pas d'accord avec ça. Même dans mon Saguenay natal, les manières de se positionner du point de vue religieux sont extrêmement variées.
Elles ont changé.
Elles ont évolué, même si les gens sont encore pour beaucoup baptisés dans l'Église catholique au Saguenay. Vous avez toute la variété des attitudes puis des croyances possibles. Oui, c'est beaucoup plus diversifié que ça. Et puis, cette manière de relier la culture puis l'appartenance catholique, c'est plutôt des relents de l'avant-révolution tranquille, où ça a été pendant 100 ans le fer de lance de l'identité identité en même temps que la langue française.
Et vous appelez ça dans le livre, je trouve ça très intéressant. Il y avait à cette époque un catéchuménat social.
Oui, l'expression vient pas de moi. Elle vient de Joseph Colomb, qui a été un des pionniers de la nouvelle catéchèse avant Vatican II. Donc oui, il disait qu'il y avait comme un genre de catéchuménat social, et puis il n'existe plus.
Et ça, il faut que l'Église fasse jusqu'à un certain point son deuil. Parce que je suis pas sûr parfois que c'est tout à fait ou qu'on veuille passer ce deuil-là ou qu'on veuille le faire.
Il y a une ambivalence, puis c'est pas seulement au niveau conscient que ça se passe. Hein. On va jouer aussi dans des attachements inconscients, dans des racines. Puis c'est pas seulement en Église, c'est aussi dans les familles où il y a un attachement à certaines traditions, à des ritualités. Hein.
Parce que le baptême, le mariage, la confirmation, ce sont tous des rituels qui sont très beaux, qui proposent des valeurs de l'Évangile. C'est quand même quelque chose, ça.
Oui. Il a fallu attendre les années 2000 pour voir une plus grande offre de ritualité alternative. Puis moi, je considère que c'est quelque chose de très positif, justement parce que ça devient possible de respecter sa liberté de conscience, puis de choisir un rituel qui fait sens, au lieu de simplement se conformer à une règle parce que tout le monde le fait le don, pour reprendre le slogan d'une vieille publicité.
Sophie Tremblay, il nous reste peu de temps. Dans votre livre, vous prenez l'exemple du minuit chrétien. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que l'un des personnages essaie d'expliquer à partir du minuit chrétien, qui est quand même, finalement, vous m'avez vraiment fait prendre conscience que le minuit chrétien qui a été chanté il n'y a pas tellement longtemps a quand même toute une valeur théologique encore très forte. Mais bon, sur certains aspects, c'est une théologie qui date. Mais sur d'autres, il y a encore une force de vérité là-dedans.
En fait, ma préoccupation dans le travail que je fais autour du minuit chrétien dans mon livre, c'est d'essayer de repérer ce qui est le cœur ou ce qui est le noyau ou le centre de la foi chrétienne. Et ça, à travers une multitude de traditions, de croyances, c'est quelque chose qui s'est vraiment perdu de vue depuis un bon bout de temps.
Oui.
Donc, pour les gens, qu'est-ce que croient les chrétiens? Ils seront pas capables de le ramasser en quelques phrases, là. Ils seront pas capables de dire où est le centre. Donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de prendre n'importe quel morceau de la tradition chrétienne puis de se mettre à la recherche de ce centre de gravité-là à l'intérieur. Donc, c'est ce que j'essaie de faire avec le minuit chrétien, dans lequel, en effet, il y a des phrases qui sont très problématiques, mais il y en a d'autres qui sont d'une grande force symbolique aussi.
Oui, oui, oui.
Puis il y a beaucoup de choses comme ça dont on hérite dans tout le patrimoine des chants de Noël.
Oui, ça, c'est sûr.
Par exemple...
Venez divin Messie, Venez divin Messie, un couplet, je me souviens, qui est lui, date un peu, mais je me souviens plus du couplet, c'est la mémoire.
Donc, c'est ça. Alors, là aussi, il y a un travail, dans le fond, d'être capable de repérer ce qui est essentiel, puis de voir ce qui est plus daté, pour voir comment on peut continuer de s'y relier, parce que c'est quand même un morceau de notre histoire, de notre culture. Ouais. Moi, comme croyante, je ne suis pas prête à dire que je suis dans la foulée de cette manière-là de dire les choses à 100%, mais complètement répudier ou rejeter ça comme ça n'avait aucune valeur, je ne suis pas d'accord non plus. Donc, pour moi, ça fait partie aussi de ce travail à faire entre les traditions que j'ai reçues, puis moi, la manière dont je vais être capable de pouvoir dire à la première personne comment je me positionne, comment je me relie à cet élément-là.
Sophie Tremblay, il nous reste 4 minutes, ou même 3 plutôt. Simplement, pour vous, quel est le défi qui se présente à l'Église pour parler au monde, mais se parler aussi à elle-même? Peut-être parce qu'il y a un grand défi au niveau de nos structures paroissiales, au niveau de nos structures de catéchuménat, au niveau de nos attentes également face aux gens qui viennent à nous, qui ont souvent eux-mêmes des attentes. Et là, il y a tout un dialogue qui doit s'établir. On ne peut plus parler comme on parlait avant, ou en tout cas, on ne peut plus faire semblant que...
Oui. Alors, mon livre n'est pas du tout centré sur les structures d'Église.
Non, ça, c'est
ça se passe... Puis j'ai fait exprès.
Oui.
Ça se passe dans des situations séculières, ordinaires, de la vie, parce que pour moi, la vie chrétienne... ça se passe en premier lieu dans la vie ordinaire, pas dans des activités religieuses. Il y en a des activités religieuses, un certain nombre de différents genres, mais c'est pas, on ne mesure pas son appartenance au christianisme par le nombre d'heures qu'on passe dans une église. Là. C'est pas de cet ordre-là. Alors, il me semble que s'il y a des déplacements à faire, au lieu de se demander qu'est-ce qu'on peut inventer, il me semble que la première chose à faire, c'est d'écouter ce qui se vit pour être capable de voir où l'esprit agit, où il y a des libertés en mouvement, où il y a des gens qui sont en recherche spirituelle puis qui découvrent ou redécouvrent le christianisme et se l'approprient. Puis comment ça peut se dire en mots non religieux? Moi, je pense que la première chose à faire, c'est d'apprendre à parler de l'essentiel de la foi sans le jargon qui peut nous donner l'impression que c'est une réalité parallèle. Là.
Ouais.
Donc, pour moi, il y a un grand défi de ce côté-là.
Et le pape François nous y invite. Quand on se parle de périphérie, c'est clairement ça. Là.
Oui, puis les périphéries, pas besoin d'y sortir, on y est déjà. Dans notre propre famille, dans la vie quotidienne, on y est.
Nos collègues de travail, des gens qu'on croise dans la rue, dans l'autobus.
Exactement.
Ouais.
Exactement.
Sophie Tremblay, ça a été un grand plaisir de vous parler aujourd'hui. J'espère que vous allez revenir, que vous allez écrire d'autres livres également. Il y a une suite qui est attendue, je pense.
Ah, mais oui. En fait, j'ai déjà commencé à penser aux prochains épisodes de l'histoire.
On a ici à suivre, là, qui est important. Absolument. À la page 218. Là, je recommande chaudement la lecture du livre. Parce qu'on sort justement du jargon dont vous parlez, et ça, c'est important. Merci beaucoup, Sophie.
Merci à vous.
Alors, Sophie Tremblay, je rappelle, est docteure en théologie, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal depuis plus de 20 ans. Elle se spécialise dans le dialogue pastoral, la catéchèse, la liturgie et les sacrements, et auteure de ce livre qui est sorti l'automne dernier, « Entre tradition et décision, devenir chrétien aujourd'hui » aux éditions Médiapôle. Je vous rappelle simplement que « Question d'aujourd'hui » vous est proposée par l'Office de catéchèse du Québec, en collaboration avec Radio Galilée et Radio VM. Merci beaucoup à Valérie Enfournier qui était à la régie aujourd'hui. Merci infiniment également à nos amis Daniel Fortin et Yannick Caron qui s'occupent de la technique en général. L'Office de catéchèse du Québec reçoit le gracieux soutien de la Fondation canadienne de la vie religieuse pour la réalisation d'émissions. Ici Mario Barre, je vous dis à bientôt.